Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque 35e, un des derniers d'ailleurs de cette 5e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
J'ai le plaisir de te saluer de nouveau, puisque apparemment tu as retrouvé ta voix et parallèlement le chemin des studios de Sud FM pour participer et animer cette émission Radio Barque. Avec aujourd'hui un sommaire qui va commencer par, je cite, « la défaillance sociétale et démocratique des jeunes », comme très souvent basé sur un billet que tu as publié. Après quoi, nous évoquerons un choix, alors un choix que tu mets sur le tapis avec beaucoup d'ironie, le choix de mourir soit sous les eaux de la Méditerranée qui monte, soit sous le feu des fanatiques islamistes qui se poursuit, soit sous un autre feu ionisant celui-là qui proviendrait des déchets nucléaires de Malvézy. Oui. S'il y a encore des gens qui n'ont pas envie de quitter Narbonne après ça...
Tu viens de déflorer la conclusion de ma chronique.
Il vaut mieux en rire. Et puis un petit coup d'œil quand même sur ce que tu nommes le mundillo politique narbonnais. Ou le landerneau politique, comme on voudra. Mais commençons tout de suite par cette défaillance sociétale et démocratique des jeunes, qui semble révélée par une étude d'un sociologue.
C'est une étude qui, en réalité, est faite tous les 10 ans en France, et qui, tous les 10 ans, fait un point sur, à travers la technique des sondages, sur ce que les jeunes, en fait, se font, en fait, hein, comme représentation de la vie, en fait, donc, bref, de leurs valeurs, au sens fort du terme. Et cette étude est fort intéressante parce que, d'abord, elle a été rarement commentée, pour ne pas dire qu'elle n'a pas été commentée du tout, en tout cas dans la presse locale, et deux, qu'elle va à l'encontre, hein, cette étude, par les conclusions et les résultats qu'elle présente, elle va à l'encontre d'idées reçues qui sont aujourd'hui largement partagées et surtout largement, en fait, diffusées sur la scène, si je puis dire, médiatico-politique.
Oui, c'est une étude nationale.
Nationale, oui.
C'est
une nationale, encore une fois, qui est publiée tous les 10 ans. Donc, en 2018, on connaît maintenant ces résultats. Alors, d'emblée, j'ai essayé de synthétiser, en fait, au maximum cette étude, hein, en reprenant d'ailleurs une note, enfin, conséquente d'un sociologue que je suis, en fait, il fut un temps où je faisais des études de sociologie, il y a fort longtemps de cela. Mais bon, ça m'intéresse toujours quand même, et je pense que cela devrait intéresser nos auditeurs. Que dit d'emblée l'auteur? Hein. D'emblée, il dément l'idée reçue, selon laquelle chaque génération nouvelle serait porteuse d'une identité particulière, mais alors radicalement différente de celle de leur devancière. Première idée qui tombe. Ouais. Alors, pour des gens comme nous qui avons un certain âge, Jean-Claude, c'est presque une banalité.
Oui. D'autant plus que, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas le cas du tout. Quoi. Hein, ouais. Il y a des cycles. Oui, la roue tourne, comme on dit.
Alors, c'est une idée quand même, apportons une petite nuance, hein, qui a une part de vérité s'agissant des modes culturels.
Oui.
Musique, vêtements,
bon. Oui, mais les modes sont-elles archi-nouvelles?
Les modes vestimentaires, elles sont recyclées, mais
elles sont recyclées.
C'est vrai que la façon dont on se coiffe aujourd'hui, par exemple, moi, cher Jean-Claude, quand on voit certains prototypes sur les terrains de football, n'est pas du tout celle qui était la mienne quand j'avais 18 ou 20 ans.
Oui, mais d'un autre côté, le port de la barbe dans les années 70, 80, 70 après 60 était très répandu également.
Oui, mais avec des cheveux longs, pas avec des cheveux courts.
Oui,
Donc ça pour dire qu'il y a des identités comme ça, bon, culturelles, qui effectivement distinguent une génération d'une autre, mais quand, sur le fond, hein, pour les valeurs, ce sont elles, des ordinateurs qui sont beaucoup plus stables, et là, seconde illusion, si je puis dire, sur le plan des valeurs, les jeunes, sur certains points, sont un peu radicaux par rapport à leur... Mais pas forcément. Alors, quels sont les tressaillants...
Tu veux dire par là qu'ils sont conservateurs, relativement, non?
On va énumérer justement ce qui m'a semblé saillir de cette étude. Tout d'abord, ce qui frappe et qui étonne quand même, hein, c'est que les jeunes, contrairement au discours commun que rapportent les médias, se déclarent massivement plutôt satisfaits de la vie qu'ils mènent.
Oui, bon, c'est pas la morosité ambiante supposée. Hein,
ceux qui se déclarent insatisfaits, mais alors en se plaçant sur une échelle de 1 à 10, ne représentent que 7% des 18-24 ans. 7% à peine. En réalité, conclusion de l'étude, la jeunesse est de plus en plus polarisé entre les sortants sans diplôme, hein, dont la situation se dégrade d'année en année, mais qui ne forme qu'une petite minorité de la jeunesse, 13% des sortants seulement, si je puis dire.
Et ceux qui vont alimenter les rangs des chômeurs, notamment.
Exactement. Hein, et bon, voilà, donc cette différence, en réalité, cette polarisation se fait entre des sortants chez les jeunes qui sont diplômés, qui sont une minorité, et l'immense majorité qui a acquis une certaine qualification, même de niveau modeste. Deuxième très salient cette étude. Un relatif optimisme individuel, on vient d'en parler très rapidement, de la majorité des jeunes, qui se combine d'ailleurs à une forte défiance à l'égard de la société et de ses institutions. Comme pour les adultes.
Oui.
Comme pour les adultes. Par exemple, seuls 30% des jeunes disent avoir confiance dans le Parlement. 30% des jeunes disent avoir confiance dans le Parlement.
Les institutions.
D'abord les institutions. Ils étaient 46 dans ce cas en 1981. Donc une aggravation effectivement de ce sentiment de défiance envers cette institution en particulier.
Mais c'est un petit peu aussi la rébellion de la jeunesse.
Oui, mais Jean-Claude, défiance qu'ils exercent aussi à l'égard des individus. Seuls 27% des jeunes, comme pour les adultes, disent qu'on peut faire confiance à la plupart des gens. 27% seulement.
Oui, c'est pas beaucoup.
60% déclarant que qu'on n'est jamais assez prudent, je cite, quand on a affaire aux autres. Donc, à l'évidence, un sentiment.
Mais c'est bien une étude française, hein.
Française,
parce
mais
qu'on retrouverait
bien.
Pas ça non, forcément non, non. Chez d'autres nations.
Mais j'y viens justement là. J'y viens. Tu me coupes un petit peu l'effet que je voulais produire justement à travers la conclusion sur ce chapitre-là. C'est un sentiment d'intégration sociale qui est d'ailleurs de longue date, hein, mais qui est nettement plus faible que dans les pays dits protestants. Mmh. On n'a pas du tout, c'est même l'inverse, hein, en Allemagne, en Suède et en Anvers.
Et en Angleterre.
Donc on est bien dans un cas tout à fait typique, effectivement, en France, hein, où, vieux pays catholique par rapport aux pays protestants,
pays latin catholique,
où on a ce sentiment de défiance généralisée, du coup, envers, non seulement envers les institutions, le Parlement en particulier, mais aussi envers les individus de manière générale. Enfin, cela dit, toutes les institutions ne sont pas rejetées par les jeunes.
Ah, quand
ça,
même.
Alors, quoi, hein. Alors. Parmi les institutions qui recueillent au moins 70% de confiance, qu'est-ce qu'on trouve, Jean-Claude ? L'armée et la police.
Oui, ça, alors ça, c'est
alors,
quand même
quoi.
Ça interroge.
On nous a quand même. Ces jours derniers, ces semaines dernières, ces mois derniers, on ne cessait de nous rabâcher l'idée que tous les jeunes, notamment chez les Gilets jaunes et compagnie, étaient farouchement opposés, à l'armée, à la police, aux violences policières.
Antimilitaristes et anti-flics.
Et que c'est
ce qui n'est pas le cas.
Hein, ce qui montre bien que là encore, que l'image médiatico-politique qui est proposée aux Français, est totalement inverse à ce que les jeunes Français, effectivement, se représentent, ou ont comme idée de ces institutions. Une autre remarque. À cette demande d'autorité, néanmoins, s'ajoute une demande de protection. Typiquement français, ça aussi, quoi. En effet, les autres institutions plébiscitées par les jeunes sont le système de santé, le système de sécurité sociale et le système éducatif. Cela dit, ce que montre l'étude, c'est que cette demande de protection n'est pas du tout contradictoire avec l'idée même de concurrence. Au contraire, elles se combinent toutes les deux. Ce qui prouverait, que les Français, jeunes Français sont dans un état d'esprit, une logique culturelle.
Économie libérale, quand même.
Qui les rapprocherait d'un, un système à la danoise, où la liberté se combinerait, la flexibilité se combinerait avec la sécurité de l'emploi.
Voilà. Mais le besoin de protection est très fort.
Il est réel.
Et cet amour, si je puis dire, ou cette popularité pour l'armée et la police, c'est ça aussi, besoin de protection.
Alors, et dernier point, je m'arrêterai là-dessus, Jean-Claude, c'est que d'une manière générale, les jeunes qui sont très très peu politisés, contrairement à ce que on a laissé entendre après les élections européennes, on a eu des articles qui montraient une grande mobilisation des jeunes pour l'écologie et le mouvement écologiste en particulier. Sauf que c'était une infime minorité des jeunes qui s'étaient mobilisés sur la question.
Et là, il y a un effet de mode.
Mais d'une manière générale, ce qui surprend dans cette étude, sur le plan politique, c'est que les attitudes des jeunes, de mon point de vue, ont de quoi susciter une certaine inquiétude. Seuls 43% des jeunes de 18 à 24 ans considèrent comme absolument important de vivre en démocratie. Tu entends bien, Jean-Claude?
Oui.
Seuls 43% des jeunes considèrent comme absolument important de vivre en démocratie. Et une forte minorité exprime un attrait certain pour les solutions politiques autoritaires. Par exemple, 8% des jeunes de 18 à 24 ans disaient en 99 que ce serait une bonne chose que l'armée dirige le pays. Ils sont aujourd'hui 20%, Jean-Claude,
oui, c'est adhéré un peu, à cette idée. C'est un peu surprenant. On a envie de dire, ben, s'ils le vivaient, peut-être qu'ils changeraient d'avis.
Et 24%, retiens-toi bien, considèrent que ce serait une bonne chose. Bonne chose, ça veut dire une moyenne entre très bonne et assez bonne. Que d'avoir à la tête du pays un homme fort qui n'aurait à se préoccuper du Parlement ni des élections.
Oui, ben oui, bon, c'était quand même un petit peu, c'est un peu, presque gaullien quand même, d'une certaine façon plus.
Oui, ou léniniste, hein, comme en 28, oui, dictature de prolétariat.
Non, je veux pas, on va pas comparer De Gaulle et Lénine.
Non, mais je veux dire par là qu'il y a effectivement, on est dans une conjoncture très particulière quand même, hein, au plan politique, hein, avec une montée des extrêmes et des votes populistes.
Oui, voilà.
On a, en fait, en arrière-fond, on a chez les jeunes, hein, ce que je viens de décrire à l'instant, et qui montre qu'il y a une grande défiance à l'égard des institutions et à l'égard des individus, sociétales en fait, et institutionnelles, et qui, à l'évidence, expriment un sentiment de désaffiliation par rapport aux valeurs républicaines.
Voilà.
Et ça, c'est très inquiétant.
Voilà. Et c'est là-dessus qu'on marque une première pause.